Et avec Élisane Pellerin, moi, je pense que pour la nouvelle année, il va falloir ajuster cette intro qui est déjà tout en boîte, parce que, Élisane, bonjour.
Bonjour, je suis tellement importante, François, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas pensé.
Ben, je ne sais pas, mais on va corriger. Alors, ben là, on fait un tour, encore un tour d'horizon de ce qui se passe en France, mais en Suisse aussi.
Oui.
Et on commence par des tartes aux pommes.
On commence par des tartes aux pommes, oui. Je cherchais le lien, mais je l'ai trouvé.
Il y a un lien,
ça
oui.
Ça m'a pris quelques secondes. Donc, on parle d'un projet qui s'appelle Prends mon handicap. L'objectif est de sensibiliser les étudiants donc aux difficultés liées au handicap au lycée Géant de Beauce, donc en France. Donc, ils ont travaillé au foyer Bourgal à Chartres, en collaboration donc avec le foyer Bourgal à Chartres, pour faire des tartes aux pommes.
Oh.
Et là où ça nous intéresse, François, c'est que justement le projet s'appelle Prends mon handicap. Donc, les personnes avaient des handicaps qu'on leur donnait, par exemple,
okay.
De ne pas voir ou d'avoir une main en moins.
Limitation, oui.
Et ils devaient faire des tartes aux pommes.
Oh.
Pour être capable de voir en fait avec quoi vivent les personnes en situation de handicap. On parle ici, évidemment, il y a plus d'handicap physique, mais c'était une façon de sensibiliser les étudiants au fait que pour certaines personnes, faire une recette, oui, de tarte aux pommes,
c'est pas facile.
Ça peut être un bon défi, alors que pour d'autres qui n'ont pas d'handicap, ne pas penser que des objets simples de la vie, des activités courantes deviennent
ouais,
un petit peu
comme
plus...
Comme peler une pomme, là.
Peler une pomme pour
si
une quadriplégique comme
une bonne dextérité, là, c'est pas facile.
Pour une quadriplégique comme moi, ça prend quand même beaucoup de temps.
Oui, puis des fois, il reste moins de pommes.
Il reste toujours moins de pommes.
Voilà. Bon, mais tant mieux. Puis ça, c'est bien parce que c'est une activité qui est ludique, puis ça s'applique à c'est une activité qui est quotidienne.
Oui.
Et en même temps, ça, c'est toutes sortes de choses en jeu. Pour faire une recette, il faut être capable de lire la recette, de mesurer, de couper, de cuire, de ne pas se faire mal. Alors, voilà, ça, c'est une bonne idée. On parle de culture à Paris.
Oui, on parle de culture, donc des acteurs en situation de handicap qui sont de plus en plus présents sur scène et particulièrement, donc, on parle d'une pièce qui est présentée à Paris qui s'appelle The Sandalwoods Pray the Hunter Become, donc, où on parle de l'ombre dont le chasseur devient la proie en français.
Oh oh!
C'est joué à Paris dans le Festival de théâtre national de Bretagne à Rennes. Par des personnes en situation de handicap.
Oh, d'accord.
Donc, on parle d'une compagnie de théâtre qui vient de Sydney, en Australie, qui n'emploie que des personnes en situation de handicap pour justement valoriser ces personnes-là et faire voir des personnes en situation de handicap un peu plus sur scène au théâtre. Le théâtre étant peut-être un endroit où on valorise un peu la haute classe, la haute société.
Oui, tout à fait.
Donc, cette compagnie-là qui vient d'Australie veut valoriser aussi les personnes en situation de handicap et leur donner une pièce. Et donc, les gens de qui on parle là, sont des gens qui ont des déficiences intellectuelles qui ont été mis sur scène là, pour ce spectacle-là et qui a joué donc cette semaine à Paris. Et qui a aussi, qui va jouer dans plusieurs villes, dont au Canada d'ailleurs, à Vancouver et à Toronto.
Je me posais la question. Ah ben bravo. Donc ils vont être à Vancouver et à Toronto.
Oui, ne seront pas à Montréal parce qu'on y serait allé, François.
Ben oui.
On avait fait une sortie de bureau, mais non, ça n'arrivera pas.
Ils étaient en Suisse, ils étaient à Zurich au mois de septembre.
Oui, ils sont à
Paris. Alors ils font le tour, mais Vancouver, Toronto. Mais il faut que nos amis de Toronto et de Vancouver y aillent, puis peut-être nous en parlent. On va essayer de trouver quelque chose. Alors,
pour l'instant, la diffusion n'est pas... Il y a une diffusion donc sur Internet, mais
ben
la diffusion
oui.
n'est pas disponible au Canada pour l'instant. Mais peut-être un jour, tout le monde, tenez-vous au courant. Ça a l'air d'être... J'ai vu des extraits. Ça a l'air d'une très bonne pièce. Et les personnes en situation d'handicap intellectuel qui la jouent sont tout à fait attachées. Donc, peut-être qu'on pourra voir ça au Canada sur nos écrans.
Tout à fait. Et il y a ici à Montréal aussi des troupes qui se spécialisent dans le théâtre pour les personnes en situation de handicap. Alors, on a eu le plaisir d'en parler ici à notre antenne. Et encore une fois, à Paris, d'autres retombées, les Jeux paralympiques, là, Je me souviens pas de... Peut-être est-ce que c'est parce que les médias français sont particulièrement attachés au sujet, mais j'ai rarement entendu parler de Jeux paralympiques aussi souvent que les Jeux de 2024 à Paris.
Oui, on en parle beaucoup et on en parle encore cette semaine, François. Donc, à quelques mois des Jeux olympiques de 2024, l'accessibilité des sites sportifs doit être améliorée, a été améliorée dans certains cas. Donc, on parle de l'hôtellerie, entre autres, les hôtels qui ont plus de chambres adaptées. Et ça va un peu mieux à ce niveau-là. On parle aussi donc d'endroits sportifs où on va avoir des jeux, donc on va avoir différentes épreuves qui ont été adaptées. On parle de 5000 places.
Ça, c'est le centre aquatique olympique. C'est là que vont avoir lieu les épreuves de natation, je suppose,
au stade de France, que 5000 places pour des personnes en situation de handicap. Et on essaie justement de construire des choses qui vont rester, hein, donc qui vont pouvoir être utilisées là, pour les personnes en situation de handicap, là, pour rendre les événements sportifs plus accueillants pour ces personnes-là. Par contre, on parle aussi qu'il y a quelques problèmes, François, ou quelques...
Dans l'accueil.
Quelques trucs à améliorer encore, là. On a encore quelques manquements. Donc... des manquements au niveau, par exemple, on manquerait encore de chambres d'hôtel. On en a fait une bonne partie, mais on a 3000 chambres qui sont accessibles autour des jeux, autour des établissements qui vont avoir les jeux, mais on va en manquer.
On attend 5000 personnes.
5000 personnes en fauteuil roulant.
Alors, il manque encore 2000 chambres.
Il manque encore 2000 chambres, entre autres.
Entre autres, et souvent dans les hôtels, même si vous n'êtes pas en situation d'handicap, si la chambre qui reste, c'est la chambre qui est adaptée.
On vous la donne.
Oui, et à ce moment-là, ben, y a quelqu'un qui le lendemain appelle en disant « Moi, j'ai besoin d'une chambre adaptée. Ben, » cette valeur est déjà prise par quelqu'un qui, de fait, n'en a pas autant besoin que vous.
Les gens font ça aussi dans les toilettes publiques, en prennent la toilette
pour les personnes en situation
d'handicap. Et là, tu arrives et tu dois attendre.
Oui, puis là, tu dis « Ah, ben il n'y avait personne. » Mais oui, il n'y avait personne, mais la personne est derrière toi.
Mon pauvre chien qui est gros n'entre pas dans les toilettes
Non.
Ça me cause certains problèmes.
Oui. Faut que vous sachiez, tout le monde, que Norton, qui est c'est un labrador, hein?
Labrador bouvier-bernois. Donc,
un gros ours
noir qui n'entre pas dans les toilettes qui ne sont pas adaptées. Non.
Il occupe à peu près la moitié du studio avec nous.
Alors, on exagère à peine.
Ben oui, c'est correct. En parlant d'adaptation en Suisse, le transport ferroviaire, là aussi, est challengé.
Oui, il y a encore un peu de travail à faire de ce côté-là également, François. Donc, quelques 500 gares qui ne sont toujours pas adaptées aux personnes en situation de handicap. Donc, on parle de 1800 gares en tout en Suisse pour tous les arrêts de train en Suisse.
Et là-dessus, il y en a 500 qui ne sont pas encore aux normes.
Il y en a 500 qui ne sont toujours pas aux normes, malgré le fait. Donc, il y a une loi qui exige de les mettre aux normes et qui avait exigé donc en 2004 que ce soit fait d'ici 2024, donc dans les 20 ans.
Oui,
et,
d'accord.
Ça n'a pas été respecté malgré le fait qu'on a fait des avancées. On sera pas prêt. Il va quand même manquer plusieurs centaines de gares qui ne seront pas adaptées à temps malgré la loi parce que justement il y a eu un manque, appelons ça un manque au niveau de l'accessibilité.
Je dirais un manque de volonté. Hein?
Oui, je ne suis pas allé jusque-là.
Oui, mais quand on veut, on peut. Hein? Alors, si on décide que c'est une priorité, on le fait. Voilà. Puis, si c'est pas ça, parce que les entreprises ferroviaires suisses, ben, en fait, il faut comprendre en Suisse qu'il y a l'Office fédéral des transports qui supervise l'industrie ferroviaire, mais ce sont des entreprises privées qui assurent le service et celles-ci ben, expliquent le retard par le manque de personnel, de ressources financières, difficile de travailler autour des créneaux d'horaire sans perturber le service, ainsi de suite. Mais là, quand ça fait 20 ans qu'on avait l'occasion de le faire, ça dénote tout à fait un retard. Voilà. Mais là, on va prendre le train.
On prend le train.
On prend le train, puis on revient chez nous. Mais avant ça, on va arrêter en Acadie. Le logement est toujours un problème au Québec.
Oui, revenons à nos moutons.
Oui, malheureusement, ces moutons sont malheureux.
les moutons sont malheureux, François. Et on en a parlé dans les dernières semaines. Donc, la crise du logement qui touche, on s'en doutait plus durement, les personnes en situation de handicap.
Exact.
Il y a des organismes de défense des personnes en situation de handicap qui demandent au gouvernement Legault de resserrer la réglementation au niveau du parc locatif pour cette population. Donc, il y a tiers de la population qui gagne, de la population donc en situation de handicap, qui gagne moins de 15 000 $ annuellement.
Exact. Et c'était M. André Leduc, qui est le directeur général de l'Association d'information en logement et immeubles adaptés, qui a lancé cet appel dans les médias. Selon les données les plus récentes, environ 40 000 ménages comptant au moins une personne en situation de handicap étaient encore en attente d'un logement social ou subventionné il y a quelques années. Je ne pense pas que ce soit beaucoup amélioré. Ce qui arrive, c'est que les propriétaires d'immeubles reçoivent des subventions pour transformer des logements, mais après ça, ils défont les adaptations pour le relouer à nouveau plus tard à des personnes qui n'ont pas besoin d'adaptation.
Oui, ils peuvent... En fait, ils veulent augmenter les prix en faisant ça, ce qu'on n'est pas supposé faire, hein, mais c'est pas tout le monde qui suit les lois. Donc, effectivement, même si on a bonifié l'aide à l'adaptation du domicile cette année en passant de 16 000 à 50 000 $ donc c'est une grosse augmentation, mais c'était une augmentation qui était tout à fait nécessaire là, avec les coûts de la vie.
Oui.
Reste que ça ne règle pas tout à fait le problème, comme vous le disiez, François, parce que les gens en situation de handicap ne peuvent pas souvent bénéficier de ces adaptations-là. Et quand ils demandent des adaptations, malgré le fait que les adaptations donc, sont payées par la subvention, il y a plusieurs locataires qui décident de ne pas
le faire. Ou s'ils le font, après ça, ils le défont.
Alors, ils le défont. Alors, donc, en tous les cas, on reste un peu avec le même problème.
Le parc de logements adaptés grossit pas. Alors, c'est comme si l'argent que le gouvernement consacre à ce projet, ben, il est gaspillé d'une certaine façon parce que ce sont des adaptations qui deviennent temporaires. Alors, ça vient pas grossir le nombre total d'immeubles adaptés et en conséquence, ben, le problème demeure.
Et effectivement, quand on est en crise du logement, déjà, les personnes qui n'ont pas de situation de handicap ont de la difficulté à se loger.
Oui.
Les prix sont très élevés. Donc, imaginez une personne en situation de handicap qui, en plus, donc, gagne sa vie de façon modeste.
Modeste, oui, faut le dire.
Ne peut pas, de toute façon, payer le logement. Donc, on se retrouve ici avec un double enjeu. Et ces personnes-là, donc, sont en situation où ils sont privés de logements qui est adéquat, se retrouvent dans des logements qui ne sont pas adéquats pour eux.
Et là, on augmente le risque de blessures, oui, puis de toutes sortes de choses, parce que d'être dans un logement qui n'est pas adapté à sa situation, ben ça va mal tourner, si je peux dire.
Oui, et les gens essaient de rester dans ces logements-là plus longtemps qu'ils le devraient, malgré une santé qui est déclinante, malgré des adaptations qui ne répondent pas à leurs besoins, parce que leur seule autre option, souvent, ben, c'est chez SSLD.
Ou là, ben, on ne veut pas être dernier recours.
Ce n'est vraiment pas un endroit où on a envie d'être, surtout quand on est jeune.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, ce n'est pas un endroit qui est adapté pour les jeunes personnes en situation de handicap. Et là aussi, on a des problèmes à trouver de la place. Ce n'est pas un endroit où il y a beaucoup de place non plus. Donc, exact. Les personnes sont forcées de rester à domicile, n'ayant pas d'autre choix. Et ça peut causer effectivement des blessures, des problèmes, différents accidents. Et évidemment, il y a un mode de vie qui va être beaucoup plus complexe pour ces personnes-là.
Exact. Il y avait plutôt ce mois-ci, je pense, le 7 décembre, la Ville de Québec a tenu un événement « Imaginez le quartier de vos rêves ». Ah, c'est intéressant, parce qu'on voit d'un côté des politiques gouvernementales pour augmenter, ça se vient du gouvernement du Québec, le logement adapté, politique qui finalement frappe un peu à côté de la cible pour toutes sortes de raisons qu'on vient d'expliciter. Puis là, en même temps, il y a des volontés de la Ville de Québec de rendre les quartiers plus accessibles. Alors, les gouvernements, parfois, veulent bien, mais c'est comme si les politiques n'atteignaient pas la cible. Alors, à Québec, il y a eu toute une journée de rencontres avec des intervenants du monde du handicap, la région de la capitale nationale. Et on espère que ça va déboucher à une politique L'élaboration des prochains plans d'urbanisme et de mobilité de la ville sera lancée en 2024 à Repentigny. Ah, ben là, parlons d'une belle nouvelle pour les milieux de vie.
Oui, parlons d'une belle nouvelle, François, parce qu'on ne peut pas juste parler des mauvaises nouvelles.
Il y en existe, des deux sortes existent.
Oui, voilà. Donc, à Repentigny, les premiers résidents intègrent leur milieu de vie à la maison des aînés alternatives qui vient d'ouvrir dans les dernières semaines. Donc, on parle maintenant d'une maison qui, justement, accueille des personnes âgées dans une maison alternative, donc une maison qui est faite pour être un peu plus semblable à un endroit de vie commune, de vie comme vous
comme
et moi
famille.
Avons. Oui, voilà, comme une vraie famille avec des endroits accueillants, avec des salons adaptés, avec tout donc ce qu'on a besoin là, pour avoir la famille qui vient nous visiter et tout ça. Donc, c'est beaucoup moins médicalisé. Donc, on aime ce type d'endroit et à Repentigny, c'est maintenant ouvert là, pour 24 personnes aînées et pour aussi des personnes en situation de handicap. Donc, on a gardé quelques endroits pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'une maison un peu plus adaptée que les maisons habituelles.
Exact.
Donc, on a fait moitié-moitié dans les endroits, dans les résidences qu'on avait, dans les chambres qu'on avait pour ces personnes-là.
C'est constitué, en fait, il s'agit de 4 maisonnettes ou 4 lieux de vie. À chaque fois, il y a 12 personnes chacune de ces personnes ont une chambre individuelle avec toilette, douche adaptée. Et les 12 chambres, si je peux dire, donnent sur des aires communes.
Oui.
Où là, il y a un salon, cuisine qui permettent de faire à manger, de recevoir les gens de la parenté. Et évidemment, ça prend une grande salle à manger. Et donc, c'est comme des maisons avec 12 personnes qui y habitent. Mais il y a un milieu de vie qui est commun. Ce ne sont pas des chambres le long d'un corridor là avec le, je sais pas, tout le...
L'aspect
tout l'environnement
médical,
institutionnel
voilà.
Qui va avec, là, tout à fait.
Alors, c'est la 16e maison des aînés, François.
Oui.
Donc, on commence vraiment à développer ce modèle qui n'est pas parfait, disons-le, là, mais qui est quand même meilleur que la CHSLD pour différentes personnes qui, comme je le disais, ne répondent pas aux attentes
à tous les critères. Oui, voilà. Et ça, c'est quand même important de voir à ce que... Il y a une certaine communauté de besoins entre les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Oui.
L'accessibilité universelle ou le design universel, ça rejoint tout le monde. Ça, c'est bien. Mais il faut éviter que les gens ne se retrouvent pas là où ils devraient être.
Oui, donc voilà, comme je le disais, c'est pas parfait, mais c'est une des réponses qu'on a trouvées là, pour ne pas avoir tout le monde en CHSLD.
Exact. Le programme national de soins dentaires, hein, ben voilà, ça c'est une des promesses électorales du gouvernement Trudeau.
Oui.
Le NPD a aidé à mettre l'agenda.
De l'avant, oui.
Exactement. Et là, l'agenda, ça vient de sortir. Alors, une lettre va être envoyée dès cette semaine aux personnes de 87 ans et plus pour les inviter à s'inscrire.
Oui, donc on parle vraiment d'assurance de soins dentaires couverte par le fédéral. Pour les personnes de 65 ans et plus. Mais la lettre, vous l'avez dit, ne sera qu'envoyée qu'aux personnes de 87 ans et plus. Les autres vont être appelés à s'inscrire en temps et lieu. Et donc, ces différentes tranches de la population, l'inscription va être faite
Au cours des prochains mois. Là,
au cours des prochains mois, une tranche de la population à la fois, un peu comme on a vu avec la vaccination de la COVID. Donc, pour éviter que le système informatique soit dépassé par les demandes.
on a vu que parfois ça pouvait poser problème. Et en fait, pour les personnes en situation de handicap, la date à inscrire au calendrier, à l'agenda, c'est juin 2024, donc dans 6 mois d'ici ou presque. Ce sera le mois pendant lequel la tranche des personnes en situation de handicap et des personnes mineures, des personnes de 18 ans et moins, pourront s'inscrire au programme national de soins dentaires. Évidemment, il y a des critères d'admissibilité et il faut aussi qu'il y ait une coordination avec les programmes déjà en place au niveau des provinces, mais ça pourra certainement permettre d'élargir la couverture et d'avoir une meilleure... parce que les soins dentaires, C'est pas plaisant aller chez le dentiste, mais c'est nécessaire. Et puis, une détérioration de ces soins-là peut amener d'autres complications médicales.
Donc, à terme, en 2025, tout le monde qui va avoir un faible revenu ou à tout le moins un revenu
éligible.
Qui est suffisant, mais qui est de moins de 90 000 $, donc vont pouvoir avoir accès à ces soins-là dentaires, donc à cette assurance-là, s'ils ne sont pas couverts par leurs propres assurances, bien sûr.
Voilà. Profession avocat, c'est intéressant de voir qu'il y a eu le barreau a fait une étude pour voir si la profession d'avocat commençait à s'élargir et maintenant on y retrouve des gens qui viennent de toutes sortes de milieux qui sont souvent moins représentés dans la profession légale.
Oui, donc on parle des personnes en situation de handicap, on parle aussi des personnes LGBT et des personnes autochtones.
Oui.
Qui sont mieux représentées, il y a encore du travail à faire, mais qui sont quand même mieux représentées dans les professions d'avocat.
Oui, mais en fait, je vois que de 2019 à 2020, 12,6% des avocats s'identifiaient à au moins un groupe désigné. Donc, il y a une croissance, c'est passé de 12,26 en 2020, on est rendu à 13,39. Ben, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est encore juste 0,63%
oui, voilà.
Pour les personnes en situation d'handicap.
C'est ce qui me frappe aussi, 0,63, c'est vraiment pas beaucoup.
C'est pas beaucoup et c'est pas facile. Moi, j'ai rencontré, il y a déjà de ça, presque 30 ans, un jeune avocat montréalais. Du nom de Frédéric Beauvais. Je l'ai croisé, il avait une canne blanche et ça m'a beaucoup frappé. Et je dois dire que de l'avoir rencontré, d'avoir discuté avec lui, ça m'a beaucoup aidé. Et c'était un exemple pour moi. Alors, Frédéric, où que tu sois, je pense qu'il est en Europe maintenant, je te salue. Ben voilà, en parlant de salutations, Élisane, ça va être le temps pour moi de vous offrir, comme à toutes nos auditrices auditeurs, les meilleurs vœux de Noël, bonne année 2024, hein, santé, joie et tout ce qu'il faut.
Oui, et abondance.
Abondance, voilà.
Et accessibilité universelle.
Accessibilité, on va souhaiter ça pour des vœux d'accessibilité pour 2024. Merci Élisane, merci Claire Guérin à la recherche et Mathieu Tessier qui tel le canard. Garde son calme, bien que sous l'eau, il s'agite. Merci, Joyeux Noël,
c'était beau pour terminer, ça.
C'était bien, hein?